Jean Moréas, le couronnement de Louis. Ce jour-là, dans la chapelle d'Aix, il y avait bien 18 archevêques et autant d'évêques. Et le pape, en personne, chanta la messe. Dans la chapelle d'Aix, il y avait bien 26 abbés et 4 rois légitimes. Ce jour-là où l'empereur Charles voulut céder la couronne à son fils Louis, un archevêque monta en chaire. « Baron, écoutez-moi, Charles le Grand a usé son temps, la couronne lui pèse, il a un fils à qui il veut la donner. » À ces paroles, les assistants menèrent grande joie et tendirent leurs bras vers Dieu en s'écriant « Père de gloire, Père, nous te remercions, nous te rendons grâce de ce qu'un prince étranger ne fondra point sur nous. » Alors l'empereur Charles appela son fils et dit « Mon fils, vois la couronne qui est sur l'autel. Si ton cœur déteste la luxure et la trahison, prends-la, j'en louerai le Seigneur. Sinon, tremble d'y toucher. » L'empereur se recueille, puis il reprend. Fils Louis, lorsque tu auras mon héritage, tu pourras conduire une nombreuse armée et passant par force les eaux de la Gironde, détruire la race des païens et joindre leur terre à la nôtre. Et si tu veux faire ainsi, couronne-toi. Mais si, aimant le péché, l'arrogance et les faux salaires, dépouiller les veuves et les orphelins, cette couronne du Christ ne la porte jamais. » Lorsque l'empereur eut cessé de parler, il regarda son fils et il vit qu'il baissait les yeux sans faire un pas. Alors, plein de courroux et de honte, il s'écria « Hélas, hélas, mais ce couard n'est point de mon sang, qu'on lui arrache les cheveux et qu'il entre dans un couvent pour tirer les cordes et être marié. Il aura sa provende afin qu'il ne mendie point. » Mais vaillant chevalier pleure à ce spectacle. Mais le comte Herlaut, homme orgueilleux et gonflé d'astuce, s'approche de l'empereur et l'entretient doucement. Droit empereur, fait-il, daignez me prêter l'oreille. Messire, votre fils est bien jeune. Il n'a que 15 ans. C'est cette faiblesse de l'âge qui le rend timide. Puisque votre plaisir est de quitter le soin du gouvernement, accordez-moi de m'en charger. Sans doute dans 3 ans, votre fils sera devenu preux et bon héritier. Et je lui rendrai volontiers. Je le jure, ses terres et ses fiefs, ayant été besogniers de les accroître. Eh bien, je vous accorde, dit Charles, Grand merci, sire, fait le trompeur. Tous ses parents qui étaient là se réjouirent. Mais Bertrand, le neveu de Guillaume le Fier, fils d'Emery de Narbonne, se lamente dans son âme. Oh Dieu, que viens-je d'entendre ? Quel sort et quel péché ! Ce méchant veut frustrer son seigneur légitime. Ah non ! Oncle Guillaume, où es-tu ? Toi seul sauras faire obstacle à la félonie du comte Hérault. Soudain, le galop d'un cheval s'arrête devant le portage de la chapelle. Le loyal Bertrand accourt et reconnaît son oncle, Guillaume, qui revient de chasser dans la forêt. Il rejoint à l'instant même qu'il quitte l'étrier et en peu de mots, il le renseigne sur la trahison du comte Arnaud. Pour son malheur, il a pensé ainsi, dit Guillaume le Fier. Il entre dans la chapelle, ceint de son épée, et rompant la presse des chevaliers, il aperçoit Arnaud qui se tenait en superbe apparat. Guillaume eut envie de lui couper aussitôt la tête, mais par crainte du péché, se ravisant, il repoussa la lame dans le fourreau. Cependant, la colère l'emporte et il s'avance sur le traître et mêlant les doigts de sa main gauche dans les cheveux, il le frappe du poing si rudement que lui brise les os de la mâchoire. Arnaud tombe mort par terre et Guillaume commence à le réprimander. « Églouton, dit-il, que Dieu te confonde. Tu as voulu frustrer ton légitime seigneur, que tu devais aimer et chérir. Oh, je ne pensais pas par ce coup de châtier, simplement. Mais tu es mort, eh bien, ce sera la récompense de ta fausseté. » Guillaume prit la couronne sur l'autel, il la prend et aussitôt il va vers le jeune prince et la lui pose sur la tête. Tenez, beau sire, au nom du Très-Haut, qu'il vous donne la force d'être un bon justicier. Ainsi parla Guillaume, et Charles se réjouit, car il voyait bien à présent qu'il avait mal jugé et son jeune fils et la félonie du comte Hainaut. Lorsque l'empereur Charles se fut retiré en son palais, il fit appeler son fils. « Mon fils, lui dit-il, tu auras mon royaume à gouverner après ma mort qui approche. Souviens-toi que celui qui me hait ne t'aime point, fils Louis. Dieu que les rois se fassent bons justiciers de leur peuple et non leurs oppresseurs. Il défend qu'ils attentent au patrimoine d'un enfant orphelin et aux quatre deniers d'une femme veuve. Il aime qu'ils abattent les forts et les foulent à leurs pieds. Ô mon fils, si un homme pauvre s'adresse à toi pour se plaindre, ne lui montre pas un front dur et plein d'ennui, mais plutôt conseille-le doucement et pour l'amour de Dieu, fais droit à sa requête autant que possible. Quant à l'ennemi orgueilleux, sois avant vers lui, pareil au léopard lorsqu'il s'élance sur sa proie. S'il te cherche une oise, mande tes nobles chevaliers et assiège-le là où il se fit mieux. Et si tu viens à le prendre, qui laisse faire rien de ta miséricorde. De cette façon, personne ne dira qu'il n'y a en toi ni amitié à priser, ni colère à redouter. Et je te ferai encore connaître une chose dont tu pourras tirer profit dans ta vie. Ne fais jamais ton conseiller d'un flatteur sans foi. Il trahirait aisément pour un salaire. Mais si un comte Guillaume, un loyal guerrier du sang d'Emery de Narbonne et de Bernard de Brabant, s'offre à te prêter main forte, alors tu peux bien te fier complètement à ses services. Et Charles n'avait pas fini de parler que le comte Guillaume entra dans la salle. Il courut s'agenouiller devant lui. « Droit empereur, dit-il, je vous demande congé, car il me faut errer et chevaucher jusqu'à Rome pour prier le Saint-Père. Il y a 15 ans que j'en fis la promesse. Comment plus tarder davantage ?» L'empereur en a grande peine. Il lui faut céder cependant. Alors il donne à Guillaume, avec son congé, 60 chevaliers richement équipés et 30 bêtes de somme toutes chargées d'or et d'argent. Guillaume la remercie et s'apprête à partir, mais le jeune roi Louis se lamente. « Oh, gentil comte, fait-il, mon père est vieux et frêle. Jamais plus il ne portera les armes, et bientôt il quittera ce monde. Je suis jeune et sans expérience. Si je ne suis pas secouru, tout ira dommage. » Alors le loyal comte Guillaume d'Emery de Narbonne le rassure en disant « Seigneur, n'ayez pas peur, n'ayez aucun souci. Lorsqu'il vous plaira, faites-moi mander par l'être scellé ou par un homme de confiance, et j'accourrai un continent. » Il partit sans tarder et ne s'arrêta lorsqu'il fut arrivé à Rome. Entre-temps, mourut Charles l'Empereur, laissant la couronne à son fils, contre qui les méchants commencèrent à trouver maintes entreprises déloyales. Vainqueur au combat singulier du géant Corsolt, ayant causé par sa victoire la déroute des Sarrasins, Guillaume de Narbonne s'apprêtait à épouser la fille du roi Guéthier qu'il avait délivrée de l'esclavage. Et voici qu'arrive à Rome des chevaux qui n'en pouvaient plus. Deux messagers de France arrivèrent. Ils s'enquirent tant de Guillaume qu'à la fin, ils le trouvent dans le moutier où le pape allait bénir son mariage. Il entre au moment où le comte prenait l'anneau pour épouser sa dame. « Ô grand Guillaume, crie-t-il, en se jetant à ses pieds, souvenez-vous de Louis, fils de Charles. L'empereur Charles est mort, et les traîtres veulent jeter son fils hors de son héritage. Ils veulent couronner un autre roi, le fils de Richard de Rouen. Tout le pays de France est dans l'affliction. Si vous ne venez pas à son secours, Guillaume l'écoute et baisse la tête. Il s'approche du pape et lui demande conseil. Au nom de Dieu, dit le pape, je dois conseiller celui qui le demande. Or, secourez-lui sans tarder. S'il était frustré, ce serait grand dommage. Je suivrai votre commandement, lui répond Guillaume. Il embrasse sa dame qui pleure d'être séparée de lui si tôt et court rejoindre son hoste afin de hâter le départ. En cheminant avec ses chevaliers, Guillaume rencontra un pèlerin qui allait, la besace au dos, un bâton de frêne au poing, et sa barbe était blanche comme fleur en avril. Guillaume lui dit « D'où es-tu, frère ?»« De Saint-Martin de Tours. » Sais-tu quelques nouvelles? Oh oui, vos sire. Charles, le roi de Saint-Denis est mort. Le petit Louis porte à présent la couronne de France. Mais il y a des traîtres qui veulent sa perte afin de mettre à sa place le fils du roi Richard de Rouen. Mais un fidèle abbé, oh que Dieu l'aide, l'a caché l'enfant dans un souterrain du boutier de Saint-Martin. Oh les méchants traîtres, fit encore le pèlerin. Oh que j'aimerais à leur faire du mal, si j'en avais la force. Ah, où donc est-ce qu'on a pu aller le... Gentil chevalier, la race du vaillant comte d'Evry de Narbonne. Ah, il aurait bien vu, si celui-là, de défendre son seigneur légitime. Guillaume l'écoute et sourit. Il lui donna deux onces d'or et deux pèlerins s'en fut tout joyeux. Guillaume regarde au loin sur la route. Il voit venir un tourbillon de chevaliers. Ils sont tous montés sur des chevaux de prix et portent de clairs arbres. Lorsqu'ils furent assez près les uns des autres, ils se reconnurent pour amis. Car ceux qui conduisaient la nouvelle troupe, c'étaient les propres neveux de Guillaume, à savoir Géraldin le Brun et le Prosari. Donc, après s'être émerveillé de la rencontre et embrassé avec joie, ils prirent la route ensemble car ils allaient tous les deux, tous au secours du roi de France. Le fort Guillaume, le noble guerrier, mène à présent 1200 cavaliers, ceints de leurs épées d'acier fourbi, portant sur la coiffe le vert homme lacé, tous bien vêtus de riches habits, de riches aubers doubles. Et personne ne songe à épargner sa monture, car Guillaume avait fait crier par deux sergents qu'il rendrait un destrier à celui qui perdrait un roussin. Or, ils allèrent tant que bientôt ils arrivèrent au milieu d'un bois touffu qui croissait à peu de distance de la cité de Tours. Là, Guillaume, qui était aussi sage que vaillant, fit incontinent de ses forces quatre parts qu'il mit en embuscade, ayant soin de bien connaître les lieux. Ah, fait Guillaume en raillant, qui veut être roi de France? Tel est aujourd'hui l'orgueilleux et fier à qui je mettrai sur la tête la couronne et capable de faire descendre sa cervelle jusqu'aux pieds. Puis, accompagné de ses neveux seulement, il chevaucha d'un trait jusqu'à la principale porte de la ville. Guillaume appelle le portier et lui parle ainsi par ruse, car il le croit le féal des Normands. « Ouvre la porte, ne nous retarde point. Nous venons donner aide au duc Richard, de son fils, qui doit être couronné selon la volonté du peuple. » Mais le portier, qui avait gardé foi à son seigneur légitime, enrage en entendant ces paroles. « Sainte Marie ! » s'écrie-t-il. « Oh, mon pauvre Seigneur, Louis doit être le héritier de Charles !» Puis il dit à Guillaume, « Oh, vous ne mettrez pas les pieds dedans. J'ai déjà là tout un corps de mécréants, méchants, mais si le ciel est juste, vous serez bientôt abîmé sous la terre, et le fils de Charles rétabli sur son trône. » À ces mots, Guillaume se réjouit fort. Il appelle Bertrand. « Sire neveu, fait-il, avez-vous jamais entendu un portier parler si bien ?»« Hélas, répond le portier, ô noble enfant, petit Louis, oh, où donc est à présent le comte Guillaume de Narbonne? Oh, s'il était là, nous en aurions aide. » Ami, dit Guillaume, tout à l'heure je vous ai parlé faussement. Mais en vérité, nous avons fait un long chemin pour secourir notre Seigneur naturel. Mais le fils de Charles est tiré vengeance de ceux qui le haïssent. Quant à toi, s'il me faut croire ce que tu viens de me dire, Certes, tu ouvrirais volontiers la porte toute grande si tu pouvais voir quel est mon pays et mon nom et ma race. Mais, fait le portier, comment se fier? Mais, dis-moi qui tu es. Je suis Guillaume de Narbonne-sur-Mer. Zénémory, dit-il à la voix claire et haute. Le portier entr'ouvrit le guichet, assez pour bien voir si celui qui parlait était bien lui. Il regarde Guillaume avec attention, et puis il s'écrie: Dieu soit loué! Oh, Sir Guillaume, je vous ai jamais vu, je vous ai jamais vu jadis, et maintenant je vous reconnais vos traits. Ah, Sire, le comte, le vieux Richard de Rouen est dans cette ville. Il y a apporté de grandes richesses dont il a tant donné aux nobles et aux bourgeois que tous lui ont juré lui laisser faire sa volonté. Car il prétend couronner par force son fils Rezin à la place de Louis. À cette heure, un fidèle abbé garde celui-ci dans un lieu souterrain, bien secret. Mais ce serait miracle s'il échappait à la fin au corps de ses ennemis. Hélas, gentil comte, vous êtes peu nombreux pour vous opposer à leur force. Oh, soyez sans crainte, dit Guillaume. J'ai laissé là-bas en embuscade 1200 chevaliers bien armés. Et au premier signal, ils accourront. Sire, fait le portier, voulez-vous un bon conseil? Certes, fait Guillaume. Eh bien, sire, envoyez un messager à vos chevaliers et qu'ils arrivent aussitôt. Les autres sont enfermés dans la ville. Faites-en garder les portes, que personne ne puisse se sauver. Il est encore de bon matin. Vous pourrez les surprendre et vous venger d'eux avant même qu'ils aient eu le temps de s'armer. Par Saint-Denis, dit Guillaume, tu ne seras pas un portier, mais mon maître conseiller. Le comte Guillaume fait monter ses chevaliers qui accourent sans tarder et tous ensemble rentrèrent dans la ville. Et bientôt il n'y eut porte, clôture ou poterne qui ne fût bien gardée. Alors Guillaume, à travers les rues, piqua droit jusqu'au boutier de Saint-Martin. Il descendit de cheval devant le parvis et pénétra dans l'église. Là, s'étant agenouillé sur le marbre au pied du crucifix, il pria Dieu de lui rendre son Seigneur Louis, son seigneur légitime et son successeur, et le successeur vrai de Charles. Et pendant qu'il y tenait en grande ferveur, un sage clerc vint à passer, qui le reconnut et lui toucha du doigt l'épaule. Et Guillaume se dressa, ayant bien regardé le clerc, il lui dit « Que veux-tu? N'es-tu point quelque félon ?»« Non, sire, répondit le clerc, mais un ami fidèle de celui que vous venez de secourir. Sire, il y a dans ce moutier plus de 80 chanoines, évêques et abbés qui nous ont trahis, qui ont trahi notre Seigneur pour de l'argent. Allez, faites-leur arracher les yeux. Je prends tout le péché sur moi. Tu me donnes un bon conseil, dit Guillaume. Mais où trouverai-je, mon Seigneur, Louis ? Car je désire avant tout le revoir. Oh, s'il plaît à Dieu, je vous l'amènerai bientôt, fit le clerc. Il s'enfuit par le détour des souterrains qu'il connaissait à merveille, et il ne s'arrêta que lorsqu'il eut atteint la voûte où le fidèle abbé se tenait caché avec le petit prince. Sire Damoiseau, fait le clerc, vous avez plus d'amis que vous le pourriez croire au lever de ce matin, car Guillaume, comte de Narbonne, conduisant 1200 chevaliers, a fait un long chemin pour vous rendre visite et pour défendre vos ennemis contre vos ennemis. L'enfant se réjouit en entendant ces paroles. Et entre l'abbé et le clerc, il monte les degrés de marbre qui vont jusqu'à l'endroit où se trouvait Guillaume. « Fils de roi de bonne race, dit l'abbé, va et jette-toi aux pieds du comte Guillaume, qui est ton soutien et conservateur de la loi du Christ. Je le ferai volontiers, dit l'enfant, qui ne le reconnut point, car la clarté était faible dans l'église. Enfant, dit le comte, pourquoi te jettes-tu à mes pieds? Je ne te connais point. Sire, dit le clerc, c'est Louis, le fils de Charles. Fier visage que j'avais promis de vous amener. En entendant cela, Guillaume prit l'enfant par la taille et l'embrassa tendrement. Mon doux Seigneur, dit-il, levez-vous, je viens vous venger. Je veux châtier d'abord les méchants moines qui vous ont trahi. Puis ce sera le tour d'Asselin et des Normands. Incontinent, il alla trouver les évêques et les abbés. Il leur arracha leurs crosses, et ne voulant pas, à cause du péché, se servir contre eux de ses armes, il les chassa hors du moutier à coups de bâton. Il n'y eut personne, fut-il d'importance, qui n'eut le cou ou la face ensanglantée. Quand Guillaume eut fait cette exécution, les méchants moines, il appela à l'aune son neveu et lui dit: Va trouver Asselin, le fils de Richard de Rouen, et dis-lui qu'il vienne sans tarder faire sa soumission au fils de Charles, son seigneur légitime, car il se plaint fort de lui. Irai-je seul? Demanda l'Helme. Oui, fait Guillaume. Et s'il refuse d'obéir, dis-lui qu'avant ce soir, il lui viendra grande honte. Je ferai votre volonté, dit Anselme. Il monta sur une mule d'Aragon et s'en fut à travers les rues jusqu'à l'hôtel où se tenait Asselin, au milieu des partisans, de ses partisans. Et superbement vêtu d'un habit d'empereur, car il pensait que ce serait qu'il serait couronné le jour même. Alhelm l'appela à haute voix. Notre seigneur Asselin, fit-il, mon oncle, Guillaume de Narbonne, vous mande de venir sans tarder faire votre soumission au fils de Charles, votre seigneur légitime, car il se plaint fort de vous. Oh, oui, dit Asselin, mais la couronne de France serait perdue si les faibles mains du fils de Charles la prenaient. Si votre oncle est aussi sage qu'il est vaillant, il se mettra de mon côté. Et je lui donnerai des terres en abondance et de grandes richesses. Vous parlez vainement, répond l'Helme. Mais écoutez ce que mon oncle vous mande encore. Si vous refusez d'obéir, il vous viendra avant ce soir grande honte. Hé, bien, fait l'orgueilleux Asselin. Puisqu'il repousse mon offre et mon amitié, je vous charge de lui porter mon défi. Et moi aussi, dit Anselme, je vous défie de la part devant vos barons. Allez-vous-en, cria Asselin avec colère. Car si je ne vous avais point reçu comme messager, à cette heure, vous n'auriez plus votre tête sur les épaules. Honte à celui qui vous craint, lui cria l'Helme. Et il retourne retrouver Guillaume, qui lui demande: Alors, quelle réponse m'apportes-tu? Bien, il refuse et vous défie. Guillaume fait sonner un buccin aigu, et tout à coup, tous ses chevaliers accourent en foule. De son côté, Asselin avait assemblé ses Normands, et vous eussiez vu commencer une forte bataille, où maintes lances furent rompues. Les mains écus percées et les mailles de main Robert brisées. Mais à la fin, la mauvaise chance s'abattit sur les Normands. Et ceux parmi eux qui n'avaient point trouvé la mort jetèrent leurs épées et crièrent merci à mains jointes. Asselin lui-même, malgré son orgueil, tourna bride et se mit à fuir. Et Guillaume, qui le poursuivait, lui dit en se moquant, « Sire Asselin, pourquoi courez-vous si vite ? Venez au moutier, et nous vous mettrons sur la tête une couronne qui vous fera descendre la cervelle jusqu'aux pieds. » Bientôt, Guillaume et Bertrand, son neveu, rejoignent le fuyard, et Bertrand voulait le frapper de son épée, mais son oncle l'arrêta en disant « Gentil neveu, ne le touche point, à Dieu ne plaise qu'il meure d'une mort honorable, non, je pense à le tuer de telle façon qu'une grande honte s'attache à sa mémoire. » Il dit, et comme il passait près d'un treillis, il vit un pieu aiguisé. Il l'arrache et en frappe à cela entre les deux sourcils. Le sang et la cervelle volèrent de tous côtés, et le fils de Richard tomba mort. Et Guillaume s'est écrié, « Montjoie, nous voilà donc vengés de ce traître baron !» Puis il court retrouver son seigneur et lui dit en embrassant, « Sire, je vous ai vengé d'Asselin, car il est mort. » « Grand merci, dit Louis, mais si vous me vengez maintenant de son père, j'en serai fort aise. » Et aussitôt, Guillaume se mit à la recherche de Richard, qu'il découvrit dans un coin du moutier où il pensait trouver refuge. « Ah, félon ! » dit Guillaume, « Dieu te confonde ! Tu as voulu frustrer ton seigneur légitime. » Il ne daigna pas toucher de ses armes, mais laissant tomber sur son poing, le renversa tout étourdi, et il allait lui rompre le cou. Mais il l'épargne par pitié pour sa vieillesse. Alors, en présence de plusieurs barons et chevaliers qui étaient accourus, Bernard lui pardonna la mort de son fils et ils s'embrassèrent en signe de paix. À vrai dire, cela ne valait pas un denier, car depuis, Richard voulut le faire périr dans un guet-apens. Mais Dieu ne le souffrit point, et Guillaume, ayant échappé, se saisit de son ennemi et le livra à Louis l'Empereur, qui le fit jeter dans un cachot à Orléans, où bientôt il mourut de chagrin et de lassitude.